Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Mardi 6 juin, bonne journée et bienvenue au 98.5 avec un ciel qui demeure nuageux. Il y aura de la pluie aujourd'hui et toujours cet avertissement de smog en raison des feux de forêt, la fumée qui dérange, c'est par endroits et ça va se poursuivre comme ça toute la journée. Un maximum prévu autour de 20 degrés et donc il y a même un risque d'orage au cours de l'après-midi, ce soir et cette nuit. Nuageux, encore là, peut-être un orage. Les quantités de pluie cependant sont limitées. Demain, c'est nuageux, des averses, 16 degrés et retour un tout petit peu du soleil pour Montréal. Jeudi, avec des températures autour de 18 degrés. Maintenant, pour ce qui est de la qualité de l'air, on vient d'obtenir le rapport d'Environnement Canada. Et c'est pas compliqué, là. La qualité de l'air partout est qualifiée de mauvaise. Ça va peut-être un peu s'améliorer au cours de la journée. Il y a un seul endroit au Québec où c'est la note acceptable, c'est-à-dire en Estrie. Mais ailleurs, c'est sûr que c'est problématique. D'ailleurs, le directeur national de la santé publique, Docteur Luc Boileau, sera avec nous pour discuter de ces enjeux. Maintenant, pour ce qui est des feux, on en retrouve 154 en activité au Québec. Il y a au-delà de 220 000 hectares de territoire qui sont affectés par ces incendies. Puis si on résume ce matin, là, en Abitibi, ça demeure extrêmement préoccupant parce que les prévisions météo nous montrent du temps ensoleillé. Il n'y a pas de pluie avant au moins plusieurs jours. Et même, je pense que c'est samedi, c'est en quantité assez limitée. Il y a toute la problématique de Clova, qui est encore évidemment sur la table. Le Bel Cuvillon, Clova c'est en Haute-Mauricie, mais le Bel sur Cuvillon en Abitibi. Et aussi la situation à Sept-Îles, la pluie finalement a commencé à tomber durant la nuit, ce qui va donner un coup de main évidemment aux pompiers. Notre ami Carl Marchand est sur place. Alors, ça veut dire que la pluie tombe, mais il y a encore quand même beaucoup de fumée.
Ah, absolument, Paul. On sent la fumée encore ce matin. Et comme c'est nuageux, j'ai bien l'impression que ça va rester sur la ville plus longtemps aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il pleut. Il va pleuvoir pour 3 jours. C'est pas des précipitations très fortes cependant. Mais cela dit, ça va sûrement aider les pompiers. C'est une situation qui est plus favorable qu'en Abitibi. Et François Legault qui va venir faire le point sur la situation à 11h30 ce matin. Alors, il va rencontrer des gens qui vont être un peu moins inquiets aujourd'hui. C'est pas mal certain.
Bon, et également, les renforts des forces armées canadiennes pourront commencer à se déployer pour combattre le feu.
Oui, c'est assez impressionnant. On ne les mettra pas en première ligne, Paul, mais ils vont pouvoir, disons, fermer le chantier en forêt, c'est-à-dire faire l'extinction terminale d'un feu, là, s'assurer que c'est bien terminé. Donc, il y a une centaine de militaires qui ont été formés à Sept-Îles hier, d'autres à Québec qui sont arrivés en soirée hier. Alors, à partir d'aujourd'hui, ils peuvent épauler la sauve-feu dans leur renfort. Il y a également des pompiers municipaux d'un peu partout au Québec aussi qui sont venus aider. Donc, ils ont procédé à de l'arrosage à proximité d'infrastructures névralgiques, tours de télécommunications, l'usine de filtration de l'eau ici à Sept-Îles. Alors, on pense que la ville est bien protégée parce que même s'il pleut, les vents ne sont pas dans la bonne direction. Ils soufflent du nord vers le sud et ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça pourrait repousser les incendies vers la ville.
Merci, Carl. On se reparle un peu plus tard. Carl Marchand qui est à Sept-Îles. Si on résume ce matin, globalement, là, c'est un peu un avertissement de la nature. On parle souvent de combattre les gaz à effet de serre, de lutter contre les changements climatiques. La réalité, c'est qu'on peut faire ça, mais il faudrait aussi surtout avoir un plan, se préparer aux changements climatiques et à leurs effets. Juste cette année, puis c'est pas un épisode pris en soi, isolément, qui fait la différence, mais si on prend le verglas qui est tombé, si on regarde les inondations qui ont été importantes dans des endroits où habituellement ça se passe pas comme ça. Si on regarde les feux de forêt à travers le Canada, force est de constater qu'on est entré dans cette période avec des effets réels des changements climatiques. Même le premier ministre Legault le reconnaît. Ce que le premier ministre du Canada a dit hier, quand vous regardez les chiffres, il y a actuellement, là, en date du 4 juin, au-delà de 2200 feux à travers le Canada, depuis le début de l'année, c'est pas loin de 3,3 millions d'hectares qui ont brûlé. C'est en explosion. Et ça va durer minimalement pour l'été. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, mis à part le nombre, l'intensité? C'est qu'il y a des feux en Colombie-Britannique, des feux en Alberta, des feux au Québec, des feux dans les Maritimes, à travers le pays. Et partout, on est débordé face à ces incendies. Pourquoi? Parce que pendant des années, ça a été géré de la façon suivante. On a des pompiers forestiers, on a de l'équipement, des canadaires, des vieux appareils. Et la stratégie était basée sur le fait que quand il y a des feux dans l'Ouest, il y en a moins dans l'Est. Donc, on peut déplacer les gens et on est capable de s'organiser. C'est pas pensé, c'est pas conçu quand il y a des feux importants partout en même temps. Et ça joue actuellement dans la stratégie. Alors ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. Au Québec, vous venez d'entendre la réalité à Sept-Îles. Pour ce qui est de l'Abitibi, Témiscamingue, c'est vrai que c'est quand même assez préoccupant. Quand vous regardez la météo, on se demande un peu ce qui va arriver, comment les citoyens vont s'organiser, et on comprend le niveau d'inquiétude. Il y a la situation de Clova. Clova, c'est un hameau. Il y a une trentaine de citoyens. Il y a des camps qui sont aménagés, des camps forestiers. Et le premier ministre Legault, hier, a créé un certain sentiment de, disons, de stupéfaction quand il a dit « on a perdu le contrôle, puis on va être obligé de laisser brûler Clova ». Vous comprendrez que les gens de Clova, qui est un hameau là, qui est rattaché à la TUC, à 200 kilomètres, Parent, c'est un peu plus proche, là, si vous situez ça sur la carte en Haute-Mauricie. Et c'est quand même un feu là sur 5 kilomètres carrés qui brûle. Puis on a demandé aux gens de quitter. Mais les gens de Clova, là, on les entend depuis hier dire « on veut pas s'en aller, là, puis on va se battre ». Et là, la SOPFEU a nuancé un peu les propos de M. Legault en disant que finalement, à l'heure actuelle, bon, le village est toujours protégé, mais c'est pas impossible là, qu'on se retrouve dans une situation plus complexe. On gère les effectifs, donc on identifie les feux qui menacent les populations les plus importantes, les infrastructures, Hydro-Québec. Alors, on peut pas éteindre tous les feux en même temps, pis on peut pas se battre contre tous les incendies. Alors, c'est sûr que il y a des citoyens de Clova qui disent que ça n'a pas de bon sens, puis que c'est pas vrai qu'on va laisser nos maisons comme ça flamber. Le ministre Bonnardel s'en va en Abitibi, et le premier ministre, on vous le disait, s'en va du côté de la Côte-Nord. Mais ce qui est important de noter ce matin, c'est que le constat, il est clair. Ce que nous vivons actuellement, puis c'est pas d'être alarmiste, là, c'est une réalité documentée partout dans le monde depuis les dernières années, que les changements climatiques se traduisent concrètement par des événements météo extrêmes, plus fréquents, à des endroits surprenants, et qui également saisissent par leur intensité. J'ai parlé avec un expert ce matin des Ressources naturelles Canada, qui s'appelle Yann Boulanger, qui est un chercheur en écologie forestière. Puis il est quand même assez clair, là. C'est qu'on se retrouve avec une hausse des températures qui fait en sorte que les forêts, la végétation, sont évidemment plus sèches et que les périodes à risque sont plus longues. Et que si on calcule d'ici la fin du siècle, il devrait y avoir 2 à 4 fois plus d'incendies et ces feux seront plus gros et feront plus de dégâts. Ça, c'est sur un horizon, grosso modo, de 75 ans. Mais ça se change pas d'un coup, là. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il faut se préparer. Comment les gouvernements, quel est le plan du gouvernement du Québec pour faire face à ces changements climatiques et à ces manifestations? Comment on va combattre les feux de forêt? Le Québec, et on s'en aperçoit, là, pour les gens qui oublient ça, là, c'est un immense territoire. Et c'est sûr que année après année, il y a toujours des feux de forêt, mais qu'on le voit cette année, c'est fort différent. Et je signale d'ailleurs là-dessus, le travail assez impeccable du ministre de la Sécurité publique. On chiale contre les politiciens, là, mais François Bonnardel, depuis le début, gère ça dans les communications de façon je dirais impeccable, vraiment là. Contrairement à d'autres ministres qui parlent, mais qui disent pas grand-chose, lui, il est clair, s'en tient au fait. Voici le portrait en Abitibi, voici ce qui se passe là-bas, voici en termes de qualité de l'air, voici en termes d'évacuation, en termes de recours aux forces armées canadiennes. Au moins, on comprend, il n'y a pas de flafla, il n'y a pas non plus de voix, de stress là-dedans. Ce sont les faits. Et je pense que les Québécois aiment ça quand c'est clair. Voici le topo ce matin, on en est là. Alors, tantôt, on ira rejoindre des gens sur le terrain pour voir comment ça évolue. Mais c'est sûr que ça demeure préoccupant. Puis dites-vous que ça va être comme ça probablement une bonne partie de l'été parce que les feux sont intenses et même si on arrive à prendre le contrôle de certains puis ramener certains citoyens chez eux, c'est pas demain la veille là qu'on va pouvoir dire « Wow, c'est réglé, en tout cas pour l'été ». Très bien, parlons du meurtre du mafieux Francesco Del Balzo qui a été assassiné en plein stationnement, en plein jour d'ailleurs. Bénédicte nous a donné tous les détails tantôt. C'est un gars qui était reconnu comme étant un caractériel, un impulsif, un agressif, plus ou moins stratégique, et qui attirait beaucoup l'attention sur lui en posant des gestes spectaculaires, que ce soit d'intimidation, ou de déclaration. Le fait aussi qu'il a été victime de tentatives de meurtre. C'est un gars qui aimait la provocation puis qui essayait de jouer un rôle plus important au sein du crime organisé. Alors, question ce matin. Ce meurtre prévu, pratiquement, là, l'expression de mon ami Claude Poirier, vivre sur du temps emprunté, ça s'applique à lui, là. Le Journal de Montréal nous dit qu'il se promenait avec un gilet pare-balles, qu'il avait embauché une équipe de surveillance pour sa protection. Mais malgré tout ça, il a été abattu. Donc, la question, c'est quoi ce matin? Est-ce que ce meurtre vient de clore un chapitre, je dirais une bataille, une guerre entre le crime organisé italien et Francesco Del Balzo? Donc, est-ce que c'est parfait? Il a été assassiné. Pourquoi? On pense que c'est lui qui a passé la commande pour le meurtre, qui s'est avéré une tentative de meurtre sur le fils Rizzuto. Est-ce que ça arrête l'histoire ou si ça fait en sorte que ses alliés à Del Balzo vont se rebeller et que là, on va avoir une escalade et que ça va devenir de plus en plus violent. Le Journal de Montréal dit ce matin, hypothèse des policiers, que Del Balzo a été comme largué par les Hells Angels avec qui il frayait depuis longtemps. Vous avez deux organisations criminelles, les Hells et vous avez la mafia. Et vous avez entre les deux Del Balzo, qui lui quitte la mafia puis se tasse vers les Hells pour ses intérêts financiers, notamment le pari sportif. Et là, il devient peut-être encombrant. Et si c'est vrai qu'il a orchestré cette tentative de meurtre, c'est sûr que tôt ou tard, il va en payer le prix. Tout c'est bien de s'en débarrasser. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Je ne le sais pas. Ce sont des scénarios qui, notamment, sont évoqués par le Journal de Montréal, qu'un contrat d'une valeur de 250 000 en cocaïne avait été mis sur sa tête. Et je vais en reparler avec Daniel Renault, André Cédillo, plus tard ce matin. Mais je vais juste faire remarquer une chose, par exemple. Quand les informations circulent, c'est sûr qu'il y a toujours des intérêts là pour que l'info se rende dans la sphère publique. Ce gars-là a été victime de tentative de meurtre. Ce gars-là a été arrêté avec un billet direct pour l'Italie, pas de retour. On l'arrête, on saisit son passeport, on le remet en liberté, il peut pas quitter le Canada. On s'entend, là? La rumeur court que c'est lui qui a voulu faire assassiner le fils Rizzuto. Il a pas son passeport, il est pris pour rester ici, il peut pas se cacher tout le temps, il fraye avec les Hells, c'est comme si l'étau se resserrait. Et de laisser courir les informations comme ça, c'est comme aussi signer son arrêt de mort, là. Alors, est-ce que cet assassinat va calmer le jeu, peut-être? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Maintenant, l'Ukraine, il faut en parler parce qu'il y a eu une explosion dans un important barrage dans une partie du sud de l'Ukraine qui est sous contrôle russe. Et c'est un barrage, une infrastructure hydroélectrique importante. Et même, on est en train peut-être d'évacuer des citoyens qui sont sur la rive droite du fleuve. Il y a certaines parties de la ville de Kherson qui commencent à être, disons, sous observation. On demande aux gens d'amasser leurs documents officiels. Et l'Ukraine qui dit que la Russie a détruit ce barrage majeur et que ça va avoir un impact, il peut y avoir des inondations. C'est une infrastructure civile, c'est comme un crime contre l'humanité. Alors, ce sera à suivre également. Dans les autres nouvelles, la presse nous dit qu'on pourrait injecter jusqu'à 9 milliards dans la filière québécoise des batteries. Puis on donne l'exemple d'une entreprise, puis on l'a vu encore avec le projet en Mauricie. Les gouvernements ont comme pas le choix. Et c'est une forme de chantage de ces multinationales. Tu me donnes l'argent, tu me fais des prêts, tu m'accordes des subventions, ou bien je m'en vais ailleurs, parce qu'ailleurs, on va me payer. Et la société s'appelle Northvolt, qui pourrait obtenir donc jusqu'à 9 milliards en subventions aux États-Unis. Et il dit, ben, pour m'installer sur la rive sud de Montréal et pour créer 4000 emplois, vous êtes prêts à me donner combien? Et ce sont des informations qui ont été soumises à la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, et ce sont des informations secrètes pour l'instant. Mais le Québec veut attirer ses entreprises de batteries, mais à quel prix aussi? Puis on le voit, l'Ontario, le Québec, il y aura beaucoup d'enjeux de cette nature dans les prochaines semaines. Je fais le tour rapidement des autres nouvelles. Paul Bernardo, qu'on avait transféré d'une prison maximale vers la prison de la Macasa, qui est un médium, pourrait retourner directement dans son ancien pénitencier. Paul Bernardo, je vous le rappelle, avec Homolka, ont été condamnés pour des meurtres odieux en 1992 et 91 en fait et 92. Ils ont kidnappé, torturé et assassiné deux adolescentes de 14-15 ans. Des meurtres qui ont fait la manchette, horrible. Et Carla Homolka, depuis ce temps, qui avait aussi témoigné contre Bernardo, mais qui avait participé à ces meurtres odieux, on le sait, s'est déplacé un peu à travers le Québec. Donc, on ne sait pas pourquoi quelqu'un a décidé un jour que Bernardo s'en irait là, s'en venait au Québec. On dit, mais ça n'a pas d'allure que ce tueur fou se retrouve ici, dans une prison médium, donc niveau de sécurité moins élevé. Hier, le ministre fédéral de la Sécurité publique a dit qu'il avait beaucoup de questions et qu'on va transférer Bernardo vers sa prison d'origine. Donc, on va revoir la décision, mais on ne sait pas pourquoi, sur quelle base on a pris cette décision. Il y a le ministre Bernard Drainville qui promet de dépoussiérer l'enseignement du français au Québec. Je pense qu'il va être content de voir les réactions, pour la plupart assez positives. Donc, il se donne jusqu'à la rentrée de 2025. C'est du long terme, mais en éducation, on n'a comme pas le choix, pour voir comment les cours de français seront plus adaptés aux primaires et aux secondaires. Et là, il est dans un mode consultation avec les profs, avec les conseillers pédagogiques. Donc, le taux de réussite, par exemple, en grammaire et en orthographe fait dur, il y a quand même pas mal de cibles d'identifier. Autant son projet est controversé, puis c'est un projet de structure, je rappelle, autant de ce côté-là, ça passe quand même assez bien. Et puis, vous dire également que Robert Hanson, 79 ans, est décédé. Qui est-il? C'est un espion qui travaillait pour le FBI et travaillait donc à la solde de Moscou. On dit que c'est probablement l'espion qui a fait le plus de dommages aux États-Unis. Il avait reçu 1,5 million en argent, en traite bancaire et en bijoux de toutes sortes pour avoir vendu des informations. Il a notamment livré l'identité d'espions américains, mais qui travaillaient en territoire russe. Il en a nommé trois. Deux des trois ont été exécutés. Et c'est lui qui a dit aux Russes, en passant, en dessous de votre ambassade à Washington, les Américains ont creusé un tunnel pour faire de l'écoute, pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Alors, c'est la taupe la plus dérangeante, probablement, des dernières décennies. Il est mort dans des circonstances inconnues, là, pour l'instant, à l'âge de 79 ans.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
On va parler de la qualité de l'air, qui est un sujet qui préoccupe non seulement les gens qui vivent à proximité des zones incendiées, mais aussi, on l'a vu, le vent qui a transporté ces particules jusqu'ici dans la région de Montréal. Je voyais le bilan ce matin qui a été émis par Environnement Canada et le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé, qui indique clairement que pour Montréal, Laval, enfin la rive sud et également l'ouest de l'île, on se retrouve avec une mauvaise qualité d'air. Beaucoup d'auditeurs m'envoient des questions. Ça va durer combien de temps? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et quel est l'impact sur la santé? Docteur Luc Boileau est avec nous. C'est le directeur national de la santé publique. Docteur Boileau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, est-ce que vous avez des indications sur la durée de ces épisodes de fumée et de mauvaise qualité de l'air? Prenons pour l'exemple la région de Montréal.
En fait, ce que nous avons, c'est des indications à court terme parce qu'on n'est pas capable de prévoir comment ça va évoluer pour le reste, soit de la semaine ou de l'été même. Mais à court terme, on sait que la modélisation que nous suivons nous montre que ça va augmenter, ça pourrait augmenter beaucoup. En Outaouais, c'est déjà élevé. À Montréal, on a des zones où ça peut être du 50, du 60, un petit peu dans l'ouest de Montréal. À Longueuil, ce matin, c'était beaucoup plus bas que ça. Donc, ça varie hein, selon la disposition des vents. Mais d'une façon générale, les gens doivent savoir que, comme vous le dites si bien, la qualité de l'air est affectée par ces incendies de forêt-là qui descendent vers nous. C'est des petites particules très, très fines, mais qui peuvent avoir des conséquences pour la santé.
Quand vous me donnez des chiffres, là, peut-être pour permettre aux gens de comprendre, 50, 60, c'est des particules, c'est ça?
Oui, c'est des nanogrammes ou en fait des microgrammes qu'on a par mètre cube. Ce sont des calculs là, de particules fines, donc c'est des toutes petites, on voit pas à l'œil nu, évidemment, c'est des très, très, très petits, 2,5 microns, donc c'est très petit. Pourtant, même si c'est petit, là, ça peut donner de l'inflammation au niveau des voies bronchiques, puis même au niveau cardiovasculaire, donc on a à se soucier de ça, là, surtout lorsqu'on sent qu'il y a de la fumée dehors et qu'on voit le ciel qui est ennuagé un peu orangé, là, c'est parce que vraiment, il y en a. Et ça a été le cas un peu hier à Montréal. Là, aujourd'hui, on prévoit pour la grande région de Montréal de la pluie sans doute en fin de journée, ce qui va aider. Mais on faut pas faut surtout se dire que si on apprend comme ce matin qu'il y a une qualité de l'air qui est mauvaise à Montréal, mais c'est pas le temps là, d'aller faire trop d'activités à l'extérieur, du jogging notamment, des courses de vélo ou des choses comme ça. Ce sont des choses qui peuvent nous nuire un peu. Puis ceux qui sont plus fragiles, bien de tenter de se protéger en restant à l'intérieur autant que faire se peut.
Bon, là, les prochaines questions seront pratico-pratiques, là, et elles viennent des auditrices, des auditeurs. Quelqu'un me dit j'ai un échangeur d'air, est-ce que je le ferme?
Lorsque un échangeur d'air avec l'extérieur, lorsque effectivement l'air extérieur est très chargé, on est mieux de le fermer pendant la période où c'est chargé. Donc, c'est pas grave d'avoir de l'air intérieur dans un domicile, puis de vivre à l'intérieur de ça pendant une journée ou deux. Là, ça, c'est pas du tout un problème, mais on est mieux de le fermer lorsque à l'extérieur, il y a une mauvaise qualité de l'air, oui.
OK. L'autre question, est-ce que je peux, normalement, je le fais, là, aérer, par exemple, la maison, l'appartement, ouvrir une fenêtre pendant une heure et refermer la fenêtre. Est-ce que je peux continuer à faire ça?
Ben, c'est mieux de ne pas faire ça dans les périodes de smog comme actuellement avec ces effets de particules fines qui, eux autres, vont rentrer dans l'appartement ou dans la maison, vont s'y installer, puis là, on va rester avec ça pendant tout le reste de la journée. Donc, c'est mieux de ne pas faire ça pendant les journées où on est lourdement exposé à l'extérieur.
Le port du masque à l'extérieur, c'est utile ou pas?
En fait, le masque de procédure là, qu'on est habitué de voir, vous savez, le masque bleu là, qu'on a dans les hôpitaux là, puis qu'on portait, ça n'a aucune utilité. Puis les couvre-visages où il y en a encore qui mettent des lingettes mouillées au visage, c'est pas utile, ça bloquera aucune particule. Le N95, celui dont vous avez entendu parler, pour la COVID, là, s'il est bien installé, il peut être utile, mais on le recommande pas en ce moment pour la grande région de Montréal. C'est plutôt pour les gens qui sont tenus d'être à l'extérieur, à proximité des zones où est-ce qu'il y en a beaucoup, là, de comme par exemple en Abitibi, certaines places où les gens doivent travailler à l'extérieur. Les gens, mettons, pour Hydro-Québec, ça, là, on va leur dire qu'ils peuvent certainement le porter, mais c'est pas du tout une recommandation que nous faisons pour les grandes régions entourant Montréal.
L'avertissement de smog, là, officiellement, c'est ce que nous envoie Environnement Canada. Ce qu'on a actuellement, est-ce que ça se compare avec d'autres avertissements qu'on reçoit, par exemple, durant l'été, puis même l'hiver? Autrement dit, est-ce que c'est pire actuellement que d'autres épisodes de pollution qu'on connaît?
On a déjà eu pire, mais actuellement, c'est une situation qui est sérieuse, mais il y a déjà eu pire. Vous avez déjà entendu à Montréal des avertissements de smog par les années passées à cause des effets de serre, des effets caniculaires, tout ça, mais pour l'instant, nous sommes dans une situation qui est préoccupante et qui peut varier, qui pourrait augmenter encore dans les prochaines journées ou diminuer, c'est ce que nous souhaitons et même prévoyons avec l'appui, comme je le mentionnais, ça peut changer la donne puis réduire cette exposition. Et nous ne sommes pas dans une situation inédite.
OK. L'autre question, quand on parle de gens qui vivent à proximité des feux de forêt, là, quand on dit à Clova, ils sont à peu près à 2 kilomètres, les flammes, dans d'autres secteurs, c'est un peu plus loin, mais déjà, les panaches de fumée se font ressentir. Quel est l'impact pour les populations locales?
Bien, bon, c'est sûr que c'est bien stressant, là, vous l'imaginez bien, mais pour les effets respiratoires, c'est sûr que dans ces zones-là, mettons en Abitibi en ce moment, ouais, autour de Sainte-Terre, là, on n'entend pas beaucoup parler, les taux sont beaucoup plus élevés que ce qu'on a ici. Mettons à Montréal, dans l'Ouest, on va avoir du 60-70 ce matin. Là-bas, ça peut être 500, donc c'est presque 10 fois plus. À ce moment-là, ils vont vraiment sentir la fumée, les yeux vont picoter, c'est-à-dire vont avoir des larmoiements, la gorge va picoter, on peut se sentir essoufflé. Et là, on invite les gens à être très prudents, à rester à l'intérieur. Les enfants aussi, les personnes les plus vulnérables, donc celles qui souffrent de maladies respiratoires ou cardiaques, ça, c'est vraiment des gens qu'on invite à ne pas être trop exposés. Mais on n'évacue pas les populations pour une question de fumée comme ça. On les évacue pour une question de risque d'incendie ou de très forte proximité là, pour ces risques-là, mais pour des raisons de fumée, on ne le fait pas, mais on invite bien sûr les gens à être très prudents. Et eux autres, ils vont le sentir pas mal plus qu'ici.
Ah non, ça c'est clair. Maintenant, l'autre question, tous les experts disent à peu près la chose suivante. Il faut réduire les gaz à effet de serre pour limiter les changements climatiques, mais en même temps, ces changements-là sont enclenchés. Et il faut se préparer aux impacts, aux effets des changements climatiques. Puis on l'a vu avec des épisodes météo plus extrêmes, là. C'est vrai ici, puis c'est vrai ailleurs. Est-ce que la santé publique est en réflexion sur la façon de préparer le Québec pour faire face à ces événements qui, malheureusement, vont se multiplier?
Depuis maintenant un bon 2 ans, les changements climatiques ont migré sur les priorités comme une des premières priorités de santé publique au Québec. Donc, tous les réseaux de santé publique, avec les autres partenaires ministériels, travaillent sur cela pour mieux s'y préparer, pour donner tout l'espace scientifique qu'il faut pour trouver les meilleures pratiques à offrir pour les populations. Donc, oui, M. Arcan, c'est une priorité. Et les exemples d'aujourd'hui, comme plusieurs autres au cours de l'année, nous montrent qu'il faut vraiment porter toute l'attention nécessaire à cela.
Pourriez-vous me donner un exemple ou deux de ce que ça veut dire, de ce que ça pourrait représenter comme conseils, mesures, recommandations, changements de stratégie?
En fait, il y a différentes dispositions. D'abord, il y a les éléments d'érosion, les risques des populations qui sont à proximité des zones où les changements climatiques peuvent vraiment affecter même le territoire et la géographie. Il y a la question des chaleurs. On vient de vivre la semaine passée une canicule. Ça, c'était beaucoup plus tôt, plus intense. On a battu des records. Dans ces moments-là, il faut que les messages de santé publique soient clairs et qu'on s'y prépare comme il faut et qu'on s'habitue à faire les bons gestes lorsque cela arrive, ces périodes-là arrive. Donc ça, c'est un autre exemple. Il y a bien sûr la question des feux de forêt. Il y a les microbes, les tiques. Alors, vous le savez, là, on a la maladie de Lyme qui a monté progressivement, qui commence à progresser du sud vers le nord parce qu'il y a ces dispositions-là. Donc, il faut aviser les populations, prendre des mesures. Il y a beaucoup de choses qui sont touchées plutôt par les changements climatiques et qui affectent la santé de la population, ces risques. Alors, c'est comme ça que nous travaillons. On identifie l'éventail complet et on suit la progression et surtout, on raffine les messages et les bonnes mesures à proposer.
Merci, Dr. Boileau. Bonne journée.
Ça me fait plaisir, M. Arcan.
Dr. Luc Boileau est le directeur national de la santé publique. Dominique Vincent, lui, habite à Clova. Puis depuis hier, on sait que Clova est devenu comme une espèce de symbole quand le premier ministre a dit que malheureusement, il fallait peut-être laisser partir Clova dans le sens où on peut pas combattre tous les feux en même temps. Le premier ministre a fait savoir que l'info venait de la SOPFEU. La SOPFEU a dit, ben c'est pas tout à fait ça qu'on a dit. Mais on peut comprendre l'impact que ça a eu chez les citoyens. C'est tout petit, Clova. Et Dominique Vincent habite à Clova. Il s'y trouve encore ce matin avec sa famille. Bonjour, M. Vincent.
Oui, bonjour.
Quand le premier ministre a dit, ben on va laisser partir Clova hier, j'imagine que ça a été reçu assez bizarrement chez vous, puis chez les gens qui sont toujours à Clova.
Non, pas tant, parce que c'était, comment je pourrais dire, c'était plus le monde de l'extérieur, hein, qui ont des chalets ou qui ont de la famille ou qui sont à l'extérieur de Clova, parce que nous, on était, moi j'étais au travail là, directement avec la SOPFEU, puis j'étais en contact avec eux, fait que ça a pas, même quand ils sont venus nous avertir comme de quoi que la SOPFEU s'en allait après la journée, la SOPFEU était pas vraiment au courant, puis c'était pas actuel, là. C'était quelque chose, ce qui parlait, M. Legault, c'était de la journée précédente, c'était même pas la situation, nous on travaillait sur le feu, on était avec eux, puis on était en attente, mais on était sur le point d'être, le feu était sur le point d'être contrôlé, ou on avait des grosses chances de contrôler le feu avec la situation géographique, les lacs, la direction du vent, fait que c'était pas... Non.
Okay.
C'était plus le monde de l'extérieur, toutes les répondre aux appels de tout le monde qui a été le pire.
Ouais, OK. Parlez-moi un peu de ce qui se passe. Clova, c'est quoi? C'est une trentaine de personnes qui y habitent à l'année?
Oui, c'est ça. C'est un petit village, un ancien village forestier de la CIP, qui est devenu un village touristique.
Puis là,
c'est une base d'hydravions. Il y a des compagnies d'hydravions, beaucoup de pourvoiries autour, beaucoup de chalets de villégiature. Il y a une grosse base d'hydravions, de deux compagnies, des avions à temps plein ici. Il y a beaucoup de trafic là, de monde qui prennent l'avion ici. Oui, c'est quand même très touristique.
OK. Et là, les citoyens, là, je parle pas des touristes qui évidemment sont pas là, mais les citoyens ont quitté pour la plupart?
Le trois quarts, oui. Il reste peut-être une dizaine de personnes. Là, c'est vraiment là c'est juste. C'est juste là, les personnes qui sont résidents, puis le monde qui peut aider, comme nous, tous les employés sont partis, tout le monde qui n'ont pas de résidence ici, qui sont pas de qui sont pas résidents permanents de la place, sont évacués, tout le monde est parti.
OK, vous avez, une auberge, une station-service, un restaurant. Comment vous pouvez aider comme citoyen? Qu'est-ce que vous faites?
Là, ce qu'on a fait, nous, c'est que on a des amis, il y a une grosse pourvoirie qui est juste ici aux côtés, la pourvoirie du Pétessier, qui ont des eux, ils sont le feu est entre nous deux. Et entre nous deux, on a 7 kilomètres. Fait que le feu passe au milieu, là. On s'est fait des camions citernes. Des remorques avec des tanks, des réservoirs d'eau de 1000 litres, fait qu'on en a 4 par véhicule, avec des pompes, puis on se promène dans les endroits où que la SOPFEU a pas d'eau, s'il n'y a pas un cours d'eau près, puis on arrose. Fait que avant-hier soir, dans la soirée, on a déversé environ 35 000 litres d'eau.
Hey boy.
Oui. Il y a une nuit, on a arrosé jusqu'à 4h30 du matin. Pour empêcher le feu de traverser un chemin. Puis on a réussi. Fait que on y va avec nos propres petits moyens, là, des petites pompes à eau, à gaz, là, puis on arrose.
Et là, j'imagine qu'il y a déjà, malgré cela, là, des chalets, des campements qui ont brûlé malgré tout dans le coin, parce que le feu est pas très loin de chez vous, finalement.
Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a comme 4 feux. Tu sais, il y en a pas qu'un. Il y en a un qui était menaçant pour le village, mais il y en a d'autres qui sont partis à cause d'une ligne d'orage, qui sont, mettons, un petit peu à l'est, puis qui sont descendus. Ils ont un feu qui doit avoir fait comme 18 kilomètres, là, jusqu'à date de long, par peut-être une dizaine de kilomètres de large. Fait que lui, hier matin, il était rendu à 18 000 kilomètres. Lui, il est pas menaçant tant qu'on n'a pas de vent du sud. Mais il est parti, lui-même. Lui, c'est sûr qu'il a brûlé beaucoup de chalets, là. Celui qui nous préoccupait pour le village, là, il était à 2 kilomètres. Là, il est rendu peut-être, là où il passe, il est peut-être rendu à 3 kilomètres. Il est un petit peu en éloignement. Lui, on va savoir ce matin s'il est contrôlé ou pas, là, parce qu'hier, il pensait l'avoir contrôlé. Mais ce matin, on va vraiment voir s'il est contrôlé, parce qu'on a beaucoup de vent là, ce matin.
C'est toujours en changement, c'est imprévisible. Vous savez pas, c'est dur à prévoir ce qui va arriver.
D'un matin à l'autre, on se lève, on s'en va voir. Ce matin, on a été voir, c'était correct. Hier soir, au début de la noirceur, on a été voir là où qui était le feu dans le secteur contrôlé. Ça avait l'air bien. Ce matin, ça avait l'air bien, mais c'est tout le temps avec le soleil, un petit peu de chaleur, un petit peu là, d'une journée à l'autre, ça change. Là. Mais là, avec la direction du vent, on sait que pour nous aujourd'hui, c'est pas dangereux. Mais c'est après, là, tu sais, s'il va s'en aller, on le sait pas. Là. On va savoir aujourd'hui s'il est contrôlé.
Ben, bonne chance à vous et à ceux qui restent à Clova. Merci d'avoir pris ce temps-là, M. Vincent.
Merci beaucoup.
Au revoir. Dominique Vincent, qui est un des rares citoyens qui reste encore à Clova avec sa famille, et il est propriétaire là-bas d'une auberge, d'une station-service et aussi d'un restaurant.
L'essentiel de Paul Arcan.
Maintenant, de façon plus globale, on le voit, et même à travers le Canada, le constat qui est fait, c'est que cette saison des feux de forêt, c'est du jamais vu. Hier, les deux premiers ministres, M. Legault et M. Trudeau, ont dit on en a minimalement pour l'été, finalement, à combattre ces feux de forêt. Tous les experts s'entendent pour dire que ces événements extrêmes de météo, on parle de feux de forêt, mais on peut parler de verglas, on peut parler d'inondations, on peut parler de vents violents. Autrement dit, on va en voir de plus en plus. C'est directement l'effet des changements climatiques. Donc, comment allons-nous composer avec cette réalité qui s'impose de plus en plus avec l'effet direct des changements climatiques? Yann Boulanger est avec nous, chercheur en écologie forestière chez Ressources naturelles Canada. Monsieur Boulanger, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand.
Oui, parfait. Donc, première question ce matin, pourquoi ces feux de forêt, selon vous, sont plus intenses cette année et pas seulement au Québec?
Oui, ben en fait, c'est vraiment une situation exceptionnelle qu'on a, effectivement, parce que d'un bout à l'autre du pays, on a des feux qui sont très importants, des superficies brûlées qui s'accumulent à un rythme jamais vu depuis au moins 20 ans, en tout cas du moins depuis qu'on a des mesures satellitaires pour pouvoir voir ce genre de taux d'accumulation-là. On a eu des conditions au mois de mai, notamment dans une bonne partie du Canada, le centre, l'ouest, le nord du Canada, des températures excessivement chaudes, en fait les plus chaudes qu'on a enregistrées depuis 1940, très certainement. Des conditions aussi particulièrement sèches. Et ces conditions-là se sont ensuite transportées dans une certaine mesure au Québec, où on a aussi observé durant le mois de mai des conditions très sèches. Par exemple, Chapais, Chibougamau, tout le nord du Québec, la partie centrale, la forêt boréale, a eu un déficit de précipitation d'à peu près 50%, voire plus dans certains cas. Donc vraiment, les sols sont vraiment très, très secs. Et en plus, la semaine passée, on a eu des températures records, très, très chaudes. Chapais a battu des records de mensuel de température le 31 mai. Ça a été suivi ensuite d'un complexe d'orages qui a effectivement où il y a eu beaucoup d'éclairs qui ont participé justement à plusieurs départs d'incendies durant une seule journée. Donc on est vraiment, c'était vraiment comme une espèce de tempête parfaite là, pour faire en sorte que les feux soient si nombreux cette année et surtout de si grande ampleur.
Mais quand je regarde regarde le portrait plus large, bon, on parle du Canada, bien sûr, mais on a vu l'été dernier au Portugal, on a vu la Californie, c'est année après année. Ça veut dire que ces incendies de forêt majeurs qui ravagent beaucoup de territoires, ça va s'amplifier au cours des prochaines années? Est-ce que c'est ce qu'on peut penser?
Oui, totalement. C'est sûr qu'il y a plusieurs régions dans le monde qui sont habituées à avoir des feux de façon relativement fréquente, mais effectivement, en fonction des changements climatiques, dans le fond, c'est pas très sorcier. La température augmente, les conditions de sécheresse augmentent, donc les conditions qui sont propices au développement des incendies un peu partout dans le monde sont de plus en plus sévères. On observe d'ailleurs là, depuis une trentaine d'années ou une quarantaine d'années une diminution de l'humidité dans la végétation. Donc la végétation devient de plus en plus sèche un peu partout dans le monde, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus inflammable. Si on parle pour le Canada en particulier, on sait que depuis les années 50, les saisons de feu, la longueur des saisons de feu augmente, les superficies brûlées augmentent aussi. On a doublé depuis la fin des années 50. Et on devrait s'attendre justement à ce que dans le futur, on observe encore un doublement, voire quatre fois plus d'air brûlé d'ici la fin du siècle, comparativement aux 30 dernières années, justement en raison de l'augmentation des conditions de sévérité. En fait, l'augmentation de la sévérité des conditions de feu là, d'ici la fin du siècle.
Mais là, ça veut dire que ça fait déjà un certain temps qu'on subit les effets là, de ces changements climatiques. Là. Mais pour plusieurs, c'est comme de le découvrir. Là. On se dit, on l'a sur le nez. Et on se demande, la question, c'est comment les gouvernements peuvent agir. Là. C'est pas juste de réduire les gaz à effet de serre, c'est de s'adapter à cette nouvelle réalité.
Effectivement, donc il faut s'adapter à cette nouvelle réalité. C'est sûr que la diminution des gaz à effet de serre à long terme et à l'échelle globale est une des solutions très importantes pour réduire justement les conditions qui vont mener à faire en sorte qu'il y ait plus de feux. Mais comme vous l'avez dit, oui, depuis les années 50, on observe déjà des conditions qui deviennent de plus en plus favorables au feu. Donc c'est à ne pas négliger là, ces conditions-là, effectivement.
Merci, Monsieur Boulanger. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Au revoir. Yann Boulanger est chercheur en écologie forestière chez Ressources naturelles Canada.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Ben justement, on va essayer de décoder un peu d'abord les causes de ce meurtre et surtout ce que ça veut dire pour le crime organisé, les différentes factions à Montréal avec deux invités que vous connaissez bien, Daniel Renault qui est de La Presse. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour.
Et André Cédillo qui a été chroniqueur à La Presse pendant 35 ans puis qui a été le co-auteur de Mafia Inc. Bonjour André.
Bonjour Paul.
Bon, Daniel, d'abord, de dire qu'il était ciblé, qu'on le soupçonnait d'être à l'origine de la tentative de meurtre contre le fils Rizzuto, on sait tout ça. Est-ce qu'il était vraiment condamné? Est-ce que vraiment, quand tu regardes ça, c'était une question de temps avant que ça arrive?
Oui, c'était écrit dans le ciel, Paul. D'ailleurs, une anecdote, moi je suis actuellement en vacances en Europe et avant de partir, j'ai pris un forfait sur mon téléphone parce que j'avais l'impression qu'il était pour se passer quelque chose. Del Balzo, c'était clair qu'il était dans la mire du clan des Siciliens depuis l'attentat, et peut-être même avant, là, mais depuis l'attentat contre Leonardo Rizzuto à la mi-mars. D'ailleurs, il prenait certaines précautions chez lui, ses fenêtres avaient été recouvertes d'une pellicule là, pour empêcher les impacts de balles. Il portait continuellement une veste anti-balles. Par contre, ce qu'on me dit, là, autant des sources policières que criminelles, c'est qu'il continuait tout de même à vaquer à ses occupations, un peu avec une certaine résilience. Et hier, ce qui est important à noter, Paul, c'est que visiblement, il a été convoqué à une rencontre à ce gym, au Monster Gym, Et lorsqu'il est sorti, c'est à ce moment-là qu'il a été abattu, donc probablement là, qu'il a été victime d'un traquenard.
OK, mais ça veut dire que on le sait depuis un certain temps, il était, enfin, c'est ce qu'on laissait sous-entendre, le plus près des Hells Angels. Il y a deux organisations criminelles, les Hells, puis mettons la mafia. Est-ce que Del Bazzo était devenu quelqu'un d'encombrant, puis dans le fond, la meilleure chose, c'est qu'il soit comme ça assassiné?
Ben probablement, Paul. C'est ce qu'on entend d'ailleurs, là, c'est ce que j'entends ou ce que je lis, là, les messages que je reçois depuis hier, c'est qu'il a peut-être été sacrifié sur l'autel, dans le fond, pour permettre à des membres des Hells Angels et au clan des Siciliens, qui est toujours le clan actuellement le plus fort de la mafia montréalaise, de pouvoir continuer à travailler ensemble. On a peut-être acheté la paix avec ce qui s'est passé hier, mais bon, c'est une hypothèse. Je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est très possible que le dossier soit clos. Mais il reste quand même un dossier, moi, qui me chicote. C'est le meurtre de Claudia Iacono. La police avait une hypothèse voulant que le meurtre de Claudia Iacono soit aussi une erreur sur la personne et que ça a été commis dans un peu dans la comme une réplique à la tentative de meurtre sur Leonardo Rizzuto. Si c'est le cas, quoique d'autres hypothèses circulent, mais si c'est le cas, ce chapitre-là n'est toujours pas réglé.
André, je veux t'entendre là-dessus. Là. Quand un meurtre arrive de cette façon-là, on se dit, est-ce que ça déclenche les hostilités, ça contribue à augmenter la violence, ou si on vient de fermer un dossier?
Ben moi, je pense que on va savoir si Del Bazzo faisait cavalier seul dans cette saga-là qui dure depuis déjà un bon moment contre les Siciliens. Parce qu'on sait que Del Bazzo, lui, depuis sa sortie de prison en 2017, tentait de reprendre sa place au soleil dans le monde interlope. Puis il a été rejeté, visiblement rejeté par le clan sicilien, et pour lequel il a travaillé pendant des années. Là. Il était Del Bazzo au sein du clan sicilien, avant son arrestation en 2006, là, il était l'un des plus prolifiques mafieux. Là. C'est à lui qu'on faisait appel pour régler à peu près tous les conflits, autant entre les familles internes que les autres organisations criminelles, et aussi même pour intimider les hommes d'affaires. On l'avait vu à la Commission Charbonneau à plusieurs reprises. Donc, moi, ce que je pense, c'est que peut-être que oui, Del Bazzo s'est collé sur les Hells Angels, parce que dans ce milieu-là, t'as pas le choix. À un moment donné, quand t'es tout seul, t'es cavalier tout seul, faut que t'aies un certain appui. Mais ça peut peut-être aller plus loin, puis Daniel, peut-être qu'il pourra répondre aussi ou explorer ça. Je pense que peut-être que Del Bazzo essayait d'ouvrir le chemin aussi à une autre organisation criminelle comme les Calabrais, parce qu'on sait que les Calabrais, depuis le début, depuis que Vito Rizzuto a été extradé aux États-Unis, depuis sa mort et tout ça, on sait que les Calabrais sont derrière plein de combines à l'encontre des Siciliens pour prendre le contrôle à Montréal.
Daniel, veux-tu en ajouter là-dessus?
Bien, en fait, pour enchérir un peu sur ce que dit André, c'est vrai que selon ce que je sais, c'est que Del Bazzo était plus isolé là depuis les dernières semaines. Est-ce qu'il a fait cavalier seul pour ce qui est de l'attentat contre Leonardo Rizzuto? J'en suis moins certain, mais peut-être que depuis hier, la paix a été achetée. Mais Paul, puis j'en avais parlé un peu avec toi la dernière fois qu'on a fait une entrevue ensemble, ça fait des années qu'on parle du déclin ou de la fin des Siciliens. Peut-être que ils ont encore réussi à s'en sortir. On va voir s'il y a d'autres règlements de compte ou pas, ou si vraiment c'est un chapitre qui vient de se terminer hier. Par contre, il y a un autre facteur très important actuellement en cours, c'est l'enquête policière autour de l'ancien tueur à gages Frédéric Silva. Qui va aboutir à un moment donné? Est-ce que ça sera en 2023? Est-ce que ça sera en 2024? Et ça, d'ailleurs, dans le milieu policier, dans le milieu criminel aussi, on le sait, ça pourrait faire très mal aux Siciliens. Donc, est-ce que, pour rejoindre un peu ce que dit André, il y a des groupes opposants au clan des Siciliens qui voit ça venir et qui pourrait en profiter pour continuer des attaques contre le clan Rizzuto. Ça, c'est toujours possible.
André, je veux t'entendre sur un autre volet. Le fait qu'on l'ait arrêté, qu'on l'ait remis en liberté, mais en gardant son passeport, parce qu'il devait quitter pour l'Italie avec un billet aller seulement. Le fait que la rumeur court en ville, puis on peut penser qu'elle circule autant du côté des policiers que du côté des organisations criminelles, que c'est lui qui aurait commandé ou orchestré la tentative de meurtre sur le fils Rizzuto. Est-ce que c'est pas condamné à mort le gars automatiquement, ça?
C'est ça que j'allais dire, Paul. Là. C'est sûr que on peut presque dire que c'est la police qui a signé son arrêt de mort là en lui enlevant son passeport. C'est clair ça. Il était comme isolé ce gars-là déjà. Donc puis en même temps c'était comme c'est quasiment de dire au milieu ben voilà voilà votre proie là. C'est lui qui est soupçonné de l'attentat dans Leonardo Rizzuto. T'sais. Mais en même temps, moi, je pense que Leonardo Rizzuto, pour répondre à ta question tantôt, Paul, là, on va savoir si ça s'arrête là après le meurtre de Del Bazzo, ou si ça continue. Si disons qu'il y a une réplique à ça, là, c'est là qu'on va savoir si Del Bazzo était solitaire ou pas, s'il y avait une organisation criminelle derrière lui. C'est comme ça qu'on va le savoir, parce que là, on peut penser que Leonardo Rizzuto vient de s'imposer, vient de signifier. Je suis encore là, là. Oubliez pas, je suis encore là, parce que moi, j'étais sûr que Leonardo Rizzuto était passablement isolé et en manque de soldats pour répliquer à l'attentat.
Daniel, mais c'est intéressant parce que il y a tellement d'enjeux et tellement de joueurs, contrairement à d'autres époques, qu'on ne sait pas exactement vers qui ça peut aller, vers et comment ça peut transformer le visage du crime organisé à Montréal, tout ça.
Non, c'est ça exactement, Paul. Mais c'est qu'il n'y a plus de chef. Depuis la mort de Vito Rizzuto en décembre 2013, il n'y a plus de chef. Oui, il y a des membres influents au sein du crime organisé montréalais. Oui, toutes les organisations travaillent ensemble. Il y a certains individus qui peuvent jouer le rôle d'arbitre, mais ce n'est pas eux qui sont tout en haut de la pyramide du crime organisé à Montréal. Actuellement, la structure est cellulaire. Elle n'est plus pyramidale. Donc, est-ce que, parce que c'est possible aussi, je l'ai dit tantôt, si Del Bazzo n'a pas agi seul dans l'attentat contre Leonardo Rizzuto, ça se pourrait aussi que la vengeance des Siciliens se poursuive. Et on va le savoir dans les prochaines semaines. Si jamais il y a plus rien qui se passe, c'est qu'on va être finalement parvenu à s'entendre. Parce que c'est pas bon pour les organisations criminelles lorsqu'on a des règlements de compte et des conflits comme ceux-là, parce que ça attire les projecteurs de la police et c'est pas bon pour les affaires.
André, en terminant, justement, le comportement de Del Bazzo, un gars qui fait de l'intimidation, dont le nom apparaît, puis les enregistrements devant la commission Charbonneau, quelqu'un qui, autrement dit, là, a des approches un peu intempestives, pas trop réfléchies. C'est pas le genre d'individu qui est voué une longue carrière, ça.
Ben surtout pas dans l'époque là, dans le contexte du clan sicilien, la façon dont les Siciliens dirigeaient la mafia à l'époque. Lui, on se servait de lui, mais quand Vito Rizzuto, qui était le leader, c'est lui qui orchestrait tout ça, quand il a été mis emprisonné, le groupe de Francesco Arcadi, pour lequel dont Del Bazzo était un des lieutenants, ce groupe-là, on a commis beaucoup de gaffes dans le monde criminel là. On a juste à penser à l'assassinat de Richard Griffin, un gars du gang de l'Ouest, dans un contexte de chicane concernant une importation une importante importation de cocaïne. Ça a laissé des marques aussi, les histoires d'hommes d'affaires et tout ça, parce que c'est devenu public. C'était pas bon pour l'organisation. C'est pour ça que Del Bazzo, quand il est sorti de prison, là, il était pas le bienvenu là, au sein du clan sicilien. Et lui, il pensait de reprendre sa place au soleil, tu sais, vraiment, là, parce qu'il était très influent. C'est lui qui tenait le book à l'époque. Donc, comme Daniel a déjà expliqué, le book, c'est très important dans, non seulement au sein de la mafia, mais dans le monde interlope. Donc, pour l'argent et le pouvoir que ça donne, le book. Donc, c'est lui qui avait ça. Donc, on sait qu'il a essayé de le reprendre, le book, de reprendre sa place, mais il y a personne qui en voulait, là, de Del Balzo. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on s'en est débarrassé.
Merci beaucoup à tous les deux. Bonne journée, Daniel Renault et André Sidilo. Il y a deux nouvelles importantes sur la scène internationale. D'abord, pardon, il y a plusieurs villages qui, en Ukraine, sont menacés suite à une attaque contre une structure d'hydroélectricité, un barrage, pour être plus précis, et qui a été endommagé par une explosion, ce qui compromet la sécurité de beaucoup de citoyens, donc des villes et des municipalités qui sont à risque élevé d'inondation. Et les conséquences pourraient être extrêmement difficiles. D'une part, l'Ukraine accuse la Russie d'être responsable. Et on a appris le décès hier de Robert Hanson, 79 ans, qui a été un des espions les plus marquants aux États-Unis. Il travaillait pour le FBI et pendant des années, sans se faire prendre, et il a reçu d'ailleurs pour 1,5 million en argent comptant, en bijoux et en traite bancaire. Donc, il a transmis des informations aux Russes et a donné 3 noms d'individus qui étaient au sein du KGB, mais qui travaillait aussi pour les Américains. 2 ont été tués. Et également, c'est lui qui a expliqué aux Russes que les Américains avaient creusé sous l'ambassade russe à Washington une espèce de tunnel pour être en mesure de faire de l'écoute à l'intérieur de l'ambassade pour évidemment connaître les secrets. Et ça avait donné lieu à une espèce de confrontation entre la Russie et également les États-Unis. Donc, 2 événements quand même importants.
L'essentiel de Paul Arcan.
Alors, même si le prix de l'essence augmente et risque d'augmenter dans les prochaines semaines, même si les taux d'intérêt sont élevés, il y a de l'inflation, tout indique que les Québécois veulent et vont partir en vacances. C'est le sondage, le 14e du CA Québec. J'en parle avec Andréanne de Derry. Madame Derry, bonjour.
Bonjour.
Donc, les Québécois veulent partir en vacances, c'est assez clair, là.
Oui, absolument. En fait, là, c'est 69%, donc une très forte majorité des Québécois qui ont décidé de prendre des vacances. Mais là, vous avez parlé effectivement d'inflation, du prix de l'essence. On peut pas passer outre là ces variables-là dans le choix de destination, dans le budget, dans la façon dont les gens vont voyager, vont prendre des vacances cet été. Donc, effectivement, ça aura des impacts là sur les vacances des Québécois cet été.
Mais justement, quelle sorte d'impact ça peut avoir? Est-ce que les gens partent moins longtemps? Ils vont moins loin, qu'est-ce qu'ils font?
Bien, ça va avoir des impacts pour ceux qui ont décidé de ne pas prendre des vacances. Ceux aussi qui ont décidé de prendre des vacances, vous aviez parlé là, de la planification. Certains ont décidé de se rendre moins loin, d'autres vont limiter leurs déplacements une fois qu'ils seront rendus à destination. Des gens même vont décider, pour des raisons budgétaires, 30% vont décider de ne pas prendre du tout de vacances cet été. D'autres gens vont, par exemple, privilégier des activités qui sont gratuites, qui sont à petit prix. Ils vont diminuer le nombre d'activités ou de divertissements. Les gens vont peut-être plutôt se faire leur propre nourriture plutôt que d'aller au restaurant. Donc, ce sont vraiment des choix que les gens vont faire. Ils vont se serrer la ceinture. Ils vont, en fait, faire quelques petits sacrifices pour pouvoir quand même profiter de la saison estivale.
Bon, les Québécois vont où? Là, je parle pas de ceux qui restent au Québec, là, mais en termes de destination, les États-Unis, l'Europe, l'Ontario, on se promène dans quels endroits?
Mais ce qui est intéressant cette année, c'est que de notre côté, en fait, on remarque que les tendances destination pré-pandémique, donc 2019 et moins, reviennent tranquillement s'installer. Donc oui, le Québec va quand même être la principale destination des Québécois. Donc 57% des gens vont passer leurs vacances au Québec, que ce soit à la maison ou que ce soit ailleurs dans d'autres régions. Et par rapport justement aux destinations Québec, Gaspésie revient encore, la ville de Québec, les cantons de l'Est, Charlevoix, le Bas-Saint Laurent. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le retour aussi des destinations internationales, plus particulièrement de l'Europe. Donc, les gens ont décidé, se sont empêchés dans les dernières années de faire de plus gros voyages. Mais cette année, c'est le retour de l'avion, des destinations qui sont en Europe, donc la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Donc, c'est vraiment les destinations principales des Québécois cet été.
Merci beaucoup, Mme Derry. J'allais dire, malgré le fait que les prix sont quand même exorbitants, là, Pierre, je regardais les résultats de cette enquête. Ça montre que les gens se sont un peu retenus. Ben, il n'y a pas le choix non plus, là. Mais qui se tournent vers des voyages, vers des destinations plus traditionnelles, comme on a vu la France, l'Italie, le Portugal, bref, l'Europe. Alors, c'était Andréane Derry du CA Québec.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.